Mémoire de Thomas Hopche. Thomas Hopche naquit dans la paroisse de Lexden, bourg de Colchester, et comté d'Essex, au 6e mois 1672. Il fut éduqué dans la profession d'un presbytérien, et fut sérieusement disposé dès sa jeunesse, recherchant souvent le Seigneur pour le bien de son âme, et lisant avec assiduité les Saintes Écritures. Vers sa 15e année, il quitta les presbytériens et se joignit au peuple appelé baptistes généraux, et fut zélé dans cette voie, devenant un prédicateur fort estimé parmi eux. Mais il plut au Seigneur de visiter plus efficacement son âme, par la lumière de Jésus-Christ, vers laquelle il se tourna dans une foi vivante, et vint à voir le vide de sa profession antérieure et de ses discours sur la religion, sans la connaissance salvatrice de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle ne s'obtient que par la révélation de son esprit. Il avait environ 20 ans lorsqu'il fut convaincu de la bienheureuse vérité telle qu'elle était tenue par le peuple appelé Quakers, et l'ayant embrassé dans son amour, il continua d'assister avec assiduité à leurs réunions pour le culte du Dieu Tout-Puissant, l'attendant dans le recueillement de l'Esprit, et un vrai silence pour son enseignement et son conseil. Enfin, il plut au Seigneur de lui accorder un don dans le ministère de l'Évangile, qu'il reçut avec une grande humilité, disant quelques mots parmi ses frères, avec beaucoup de crainte et de tendresse, pour la consolation et le rafraîchissement de beaucoup. Dieu, dans sa tendre miséricorde, augmenta son don, de sorte qu'il devint un ministre de l'Évangile capable et expérimenté, détournant beaucoup des ténèbres vers la lumière de Jésus-Christ. Dans ce service, il voyagea dans la plupart des régions d'Angleterre et aussi en Irlande. Tant qu'il était en bonne santé, il s'appliquait à se souvenir de la mort et en parlait, et lorsqu'il tomba malade, il remarqua « Je ne m'attends pas à vivre longtemps dans ce monde, je me suis préparé pour un meilleur. Je ne désire pas vivre pour mon propre compte, j'aspire de plus en plus à être chez moi avec mon Dieu, pourtant, je ne voudrais pas être de ceux qui désirent la récompense avant que l'œuvre soit accomplie. Il n'y a rien ici qui m'invite à rester, mais si Dieu a encore quelques services pour moi dans ce monde, je m'abandonne à sa volonté. » Dans une lettre à un ami particulier, écrite durant sa maladie, il s'exprime ainsi « Quand je considère les nombreux changements auxquels nous, les nôtres et tout ce que nous avons en ce monde sommes sujets, il me semble c'est un antidote suffisant contre l'attachement particulier aux choses temporelles, et il m'apparaît que c'est le manque d'une juste réflexion qui rend beaucoup de personnes si occupées de ces choses, au point de contrarier presque entièrement les efforts religieux nécessaires pour assurer notre intérêt éternel. Il y a maintenant longtemps que je n'ai pas connu un seul jour de parfaite santé comme autrefois. Je le considère comme une convocation préparatoire hors de cet état fragile d'existence, et je remercie Dieu de ne pas être entièrement inattentif à mon devoir, en mettant ma maison en ordre en vue du temps qui viendra où je devrai mourir. J'espère vivre dans un état bien meilleur et y rejoindre toutes les générations des justes qui nous ont précédés et qui suivront ensuite. » Plusieurs amis étant avec lui, il leur parla de sa mort, et désira qu'il lui en soit témoin, disant « Ma dépendance, mon espérance et ma confiance sont en le Seigneur Jésus-Christ seul. Je ne m'estime sur aucune qualification ni aucun don reçu, mais je dépose tout aux pieds de Jésus, et je ne suis rien devant lui. » Environ deux jours après cela, bien que faible de corps, on le transporta en carrosse à l'enterrement d'un ami à Ipswich, et quoique semblant fort peu apte au service du jour, il y eut beaucoup de gens assemblés, le Seigneur voulut pourtant le fortifier et le rendre capable d'éclairer la parole de vérité et de vie, dans la démonstration et la puissance de l'Esprit. Par quoi le peuple fut très touché, et les amis qui connaissaient sa faiblesse admirèrent l'amour et la bonté de Dieu envers lui. Il parut plus fort après la réunion qu'avant, et demeura mieux pendant quelques jours, mais son mal revint, et il fut rendu capable d'une grande patience sous une douleur extrême, si grande, disait-il, qu'aucune langue ne pouvait l'exprimer. Pourtant, il désirait être résigné, et le Seigneur lui accorda la résignation, la foi et la patience en tout. À un ami venu lui rendre visite, il dit « Selon toute vraisemblance, je suis maintenant sur le point de vous faire mes adieux à tous, et je prie Dieu de tout mon cœur de vous bénir. » Comme on le priait d'envoyer chercher un autre médecin, il répondit « Non, je suis satisfait, si Dieu avait voulu dire amen aux moyens, il en a été suffisamment employé pour mon rétablissement, et par conséquent je n'aurai les yeux que sur le Seigneur pour recevoir du secours. » À un autre moment, il dit « Ma langue n'est pas capable d'exprimer ce que je ressens de l'amour et de la bonté de Dieu, maintenant que j'en ai le plus besoin, et le dicton employé par ce peuple simple et méprisé les Quakers est très vrai, la vie vaut mieux que les paroles. Il y a une chose que je ne puis comprendre, pourquoi le Seigneur abonde ainsi en amour et en miséricorde envers moi, qui suis si indigne de la moindre de ses miséricordes. » On éprouvait bien souvent un grand rafraîchissement à rester assis près de lui en silence, et un matin du premier jour, plusieurs amis étant dans sa chambre, ils désiraient qu'ils attendent ensemble le Seigneur, et le Seigneur voulut ouvrir sa bouche pour louer et magnifier son saint nom. Il parla de l'état bienheureux des fidèles, à la vue duquel il fut rempli d'une joie céleste, louant le Seigneur pour la consolation de ceux qui étaient présents, et disant « Oh, que je puisse déclarer les merveilles du Seigneur, que j'ai vues dans les profondeurs, mais je suis résigné à sa volonté. » Parlant de ses douleurs et de ses épreuves, il dit qu'elles étaient très grandes, mais ajouta « Le Seigneur est très bon pour moi, et soutient mon esprit au milieu de tout cela. » Prenant congé de quelques amis venus le voir, il les exhorta à vivre de telle sorte que lui et eux puissent se retrouver dans les demeures du repos éternel, et il exprima sa chère affection aux amis de partout, disant « Ils sont proches de ma vie, j'ai une véritable unité avec eux en esprit. » Lors d'une réunion dans sa chambre environ 2 semaines avant sa mort, l'état de l'Église et plusieurs précieuses vérités de l'Évangile lui furent ouvertes, et dans une disposition d'esprit céleste, il parla de la merveilleuse sagesse, de l'amour et de la bonté de Dieu, exhortant les amis à être plus fidèles et plus diligents dans sa bienheureuse cause et son service. Quelques jours avant sa fin, se sentant un peu ranimé, il alla à la réunion et s'y livra à une prière fervente, louant le Seigneur dans un vrai sentiment de sa miséricorde et de sa bonté. Son mal revenant avec une gravité accrue, il sentit sa fin approcher et remarqua « Je désire mourir dans une grande humiliation et remettre mon esprit entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. » Quand la mort approcha, il était dans une disposition d'esprit céleste et dit « Le Seigneur, dans les richesses de sa miséricorde, gardera tous ceux qui se confient en lui, au milieu de toutes leurs épreuves. » Il quitta paisiblement cette vie le 10 du 8e mois, 1704, âgé de 32 ans.